enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Parce que nous trouver dans ta présence, Seigneur, c'est toujours extraordinaire. C'est toujours un moment merveilleux. C'est toujours un moment glorieux. Ô Dieu des cieux, puisses-tu vraiment par ta grâce divine m'inonder de ton Esprit Saint, inonder le cœur de tes serviteurs, de tes servantes, afin de porter, Seigneur Dieu, de recevoir ta parole, et que ta parole puisse changer, transformer les vies, et les préparer, Seigneur Dieu, à être des champions, Seigneur, dans le domaine conjugal. À toi la gloire, l'élévation au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Sois élevé, sois magnifié. Merci Dieu des cieux, remplis-moi Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va se rasseoir. Soyez les bienvenus, Marie des champions. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans notre passage de base. Nous le relisons constamment parce que l'ensemble de notre enseignement est basé sur ce merveilleux texte de Jésus, texte qui parle du miracle de la transformation de l'eau en vin. Ce miracle-là a la particularité d'être le tout premier miracle de Jésus-Christ. Et nous avons dit que Jésus-Christ a réservé ce premier miracle à des noces. Les noces qui sont les symboles de la vie conjugale, qui sont les symboles de la vie familiale. Et nous avons dit que si le Seigneur Jésus a consacré son premier miracle à des noces, c'est que la famille a un rôle important et très important pour le Seigneur. Alléluia. Et on voit que ce couple-là qui célébrait son mariage a vu au fil de leur mariage la fin, ou bien pardon, comment dirais-je, a vu que le vin est venu à manquer, le vin qui était réservé aux convives, le vin qui est le symbole de la joie. On a vu cela dans les livres des Cantiques des Cantiques. Donc lorsque le vin vient à manquer dans une famille, lorsque quelqu'un manque son vin, la Bible symbolise que, la Bible veut montrer que, en fait, cette personne-là perd la joie, perd le bonheur, perd la joie de vivre. Le vin qui est le symbole aussi, lorsqu'on en prend suffisamment, qui est le symbole de l'ivresse, c'est-à-dire à un moment donné où on perd un peu les pédales, où on n'est plus trop cohérent, on n'est plus trop logique. Et effectivement, on s'est rendu compte que le mariage, dans l'étape qu'on appelle souvent le coup de foudre, est un mariage où on perd un peu les pédales, on n'est plus très logique, on est capable de faire des choses extraordinaires pour la personne qu'on aime. Alléluia. Et il se trouve que, pour la majorité des couples, presque tous les couples, cette situation de joie, je veux dire entre guillemets, d'extase, cette situation d'ivresse, n'est-ce pas, vient toujours à finir, et cela amène dans le couple des situations désastreuses. Les gens qui prenaient du temps et du plaisir à être ensemble trouvent qu'il est de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué à être ensemble. Donc c'est cela qui est marqué par la fin, par le fait que le premier vin soit fini. Amen. Les vases donc qui contiennent le premier vin sont finis. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce passage? Logiquement, bon, les gens pensaient pouvoir achever leur mariage comme tel, les noces, dans le livre de Jean chapitre 2. Ils pensaient achever leur mariage comme ça, sans vin, c'est pas grave, de toute façon, on a déjà bu le premier vin, on a déjà connu des moments de joie, et puis allons-y ainsi. Leur attitude ressemble bien aussi à la décision qu'ont pris certains couples, certains conjoints. Ils ont dit, bon, ok, c'est pas grave, on n'est plus comme au premier jour de notre mariage, on n'est plus comme au premier jour de notre rencontre, parce que quelquefois même le premier vin finit avant le mariage, j'ai déjà vu ça, les gens sont fiancés et avant même de se marier, même le vin est déjà fini. Mais c'est dit, bon, de toute façon, on est trop engagés, nos parents nous connaissent, tout le monde nous connaît, donc c'est pas grave, on va forcer, allons-y au mariage. Donc, lorsque le vin est fini, ce n'est pas les convives, ni l'ordonnateur du repas, ni les mariés même qui ont remarqué l'absence du vin, qui sont partis demander un vin nouveau. Mais il y avait une personne qui était là, Marie, alléluia, la mère de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ avait été invité à ses noces Et elle s'est levée, elle a estimé que ce n'était pas normal. Je ne comprends pas pourquoi, mais je crois que l'attitude du mari est une attitude de l'esprit. Amen. Dieu a convaincu Marie que maintenant le Seigneur s'apprêtait à faire quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait s'il n'y a plus de Fanta à une fête? Qu'est-ce que ça fait s'il n'y a plus de Coca-Cola? Qu'est-ce que ça fait s'il n'y a plus de Bissap? Il n'y a plus de Yamankou? Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, on en a bu déjà. Si c'est fini, mais c'est pas grave. Ok? Allons-y, ainsi de suite. Mais Marie n'a pas accepté cette situation. Elle va voir Jésus. Elle savait que Jésus-Christ, de manière prophétique, Marie savait que Jésus avait la solution au problème. Alléluia. La foule qui était là ne connaissait pas Jésus. Il avait simplement invité comme une personne, comme tout autre. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de situations conjugales, c'est le cas de beaucoup de foyers. Ils viennent à l'église pour qu'on prie, pour respecter la coutume. Pour respecter la coutume où il faut que les pasteurs viennent prier pour eux. Et c'est juste simplement, ils se comportent donc comme ces personnes-là qui ont simplement invité Jésus sans savoir qui il était. C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent à l'église pour qu'on prie pour leur mariage sans connaître que Jésus-Christ, sans savoir que Jésus-Christ est le fondement même du mariage. Donc, on vient, les pasteurs bénissent leur mariage, les prêtres bénissent leur mariage sans que ces personnes-là réalisent que Dieu est le créateur lui-même du mariage. Et ce qui devait se produire arrive. Le vin vient à manquer. Donc Marie, qui a saisi la situation, vient interpeller Jésus. Jésus se lève et la réponse que Jésus-Christ a donnée à Marie devait plutôt décourager Marie. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie, malgré le fait qu'elle a entendu ces paroles, n'est pas découragée, ne se décourage pas. Elle voit les disciples et elle leur dit, faites ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait que ce que Jésus allait dire, elle savait que Jésus allait poser un acte, Jésus allait faire quelque chose. Et Jésus va donner des recommandations assez particulières. Et c'est tout là l'objet de notre enseignement. Amen. Je crois que les recommandations qu'a donné Jésus sont des symboles prophétiques. Je le crois fermement. Amen. Je crois que ce miracle-là n'est pas un simple miracle. Je crois que c'est une parole, c'est une révélation de Dieu pour la restauration de la famille. Pour la restauration de la famille dans notre société où les hommes et les femmes ont considéré Jésus-Christ comme un simple invité à leur mariage, où ils n'ont pas bâti leur couple sur Jésus. Beaucoup de gens se sont mariés à l'église. Mais laisse-moi te dire que tu peux te marier à l'église sans bâtir ton foyer sur le roc, sans bâtir ton foyer sur Jésus. Un pasteur peut prier pour ton mariage, mais pourtant, ton mariage n'est pas bâti sur Jésus. Quand on veut bâtir le mariage sur Jésus, lorsqu'on a envie de voir le renouvellement de la situation conjugale avec Jésus, il faut suivre les instructions de Jésus. C'est ce que Marie a dit. Elle dit, suivez ces instructions. Marie savait que ce foyer-là, physiquement, il n'aurait plus de vin. Mais spirituellement parlant, Marie savait. Ceux qui ont la foi, ceux qui connaissent Jésus savent que lorsque la joie est finie dans un couple, lorsqu'il n'y a plus de bonheur, ceux qui ont la foi savent que Dieu peut résoudre le problème. Il faut que vous ayez la foi. Ta situation conjugale, Dieu va la régler, Dieu va la résoudre. C'est pourquoi tu es au mardi des champions. Dis Amen avec moi.
Amen.
Dis Amen avec moi. Alléluia. Pour ceux qui sont déjà mariés, sache que Dieu va changer votre couple. Et la situation de tristesse, d'angoisse que tu as connue jusqu'à ce jour sera très bientôt un lointain souvenir. Alléluia. Je te parle d'une chose, parce que personnellement, je l'ai rencontré, je l'ai connu. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce que notre premier vin est fini dans la période des fiançailles. Donc lorsqu'on s'est marié, on était déjà dans le deuxième vin. Alléluia. Donc, le deuxième vin, il se renouvelle de gloire en gloire. Et c'est ce secret-là que je veux partager avec vous. Le secret se trouve ici. Alléluia. Où tu bâtis un foyer et tu es toujours en lune de miel. Avec ta femme est en lune de miel avec ton mari. Vous êtes toujours en lune de miel. Alléluia. Vous êtes toujours en lune de miel. Votre lune de miel ne finit jamais. Telle est la promesse du vin nouveau. C'est cela le mystère de Jésus. C'est cela le mystère du premier miracle. Comment faire en sorte que la lune de miel ne s'arrête jamais? Alléluia. Alléluia. Et donc, nous sommes en train de suivre les instructions de Jésus. Il dit ceci, prenez 6 vases. Les 6 vases étaient destinés à la purification. Il n'a pas pris les anciens vases où on avait mis le vin qui venait de finir. Il a pris de nouveaux vases. 6 vases. Et lorsqu'on voit 6 vases, ça nous fait penser au 6e jour. Le 6e jour, c'est le jour où Dieu a instauré le mariage entre Adam et Ève. Et nous avons donné cet enseignement là-dessus pour expliquer à la jeune dame, pour expliquer au jeune homme, ou pour expliquer à celui qui n'est pas encore marié, comment Dieu célèbre le mariage, comment Dieu quelle est l'action que Dieu pose pour pouvoir bâtir un mariage solide. Premièrement, pour attirer son conjoint, amen, et bâtir un foyer solide. Qu'est-ce que Dieu fait? Nous avons déjà enseigné ceci. Deuxièmement, le miracle du vin nouveau parle aussi de la restauration du couple. Alléluia. Donc, Jésus a demandé de prendre six vases. Ces vases étaient destinés à la purification des Juifs. Et la Bible dit que ces vases-là avaient une contenance de deux ou de trois mesures. Et je vous ai dit que les deux et trois mesures nous parlent du deuxième et du troisième jour. Le deuxième et le troisième jour, Dieu a créé l'environnement dans lequel il allait déposer le couple humain. Amen. Et on va voir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, combien de fois l'environnement est important pour avoir un couple heureux. Combien de fois l'environnement que crée la femme, l'environnement que crée le monsieur, que crée l'homme, est important pour restaurer la famille. Mon frère, écoute-moi, si tu es venu dans ce lieu avec une situation conjugale désastreuse ou bien qui est en train de tomber dans le désastre, sache que c'est parce que tu n'as pas mis certains principes de Dieu en pratique. Humilie-toi, écoute la parole de Dieu et applique-la afin d'être toujours en lune de miel avec ton épouse, madame, afin que tu sois tout le temps en lune de miel avec ton mari. Alléluia. Mardi dernier, nous avons enseigné sur comment est-ce que la femme peut amener le vin nouveau. Alléluia. La première des choses, c'est que j'ai dit que le vin de gloire, c'est-à-dire le vin nouveau, la joie nouvelle, la restauration de la joie dans votre famille, peut être initiée, peut être enclenchée par l'un ou l'autre des conjoints. En fait, celui qui se rend compte, le premier, que la situation ne va plus bien. Il faut une seule personne, il suffit d'une seule personne pour que le vin nouveau vienne. Amen. Alléluia. Les principes que je suis en train de donner servent aussi à ceux qui ne sont pas mariés pour vous préparer aussi, pour votre futur foyer, pour vous préparer à votre futur foyer et comment gérer votre homme. Amen. Si vous vous mariez, vous connaissez la joie familiale avec le premier vin, s'il finit, ne soyez pas découragés. Parce qu'il y a un vin nouveau qui va venir. Amen. Donc, nous allons dire comment est-ce que la femme pouvait restaurer le vin. Parce que le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans le foyer ne sont pas exactement les mêmes. De par leur physionomie respective, la femme a des capacités que l'homme n'a pas. Et de par la physionomie de l'homme, l'homme a des capacités que la femme n'a pas. Mais à chacune de ces personnes, Dieu a donné la capacité de la restauration de la gloire. Alléluia. Alléluia. J'ai fait une expérience ces temps-ci. Vous pouvez le faire avec votre femme, avec votre conjoint. Le temps, lorsqu'on va arriver à la partie des questions, on va peut-être refaire ce texte-là. J'ai fait ça aussi avec mon épouse et puis d'autres personnes. Si vous avez une femme à côté de vous, on peut essayer. Oh, bon, je ne me suis pas préparé pour ça. En fait, c'est un exercice. Hein. C'est un exercice. Tu prends ta Bible. Moi, mes parents, j'ai pas eu le temps de le faire. Sinon, j'avais prévu, j'allais vous écrire une prière. Facile à répéter. Et puis, tu lis la prière, tu pries. Ou bien voilà. Tu prends une prière quelconque et puis tu pries. Seigneur, récite par exemple notre Père. Voilà. Mais réfléchis à ce que tu dis dans notre Père. Et puis, simultanément, essaye de lire le psaume chapitre 20. Les deux choses à la fois. Récite le notre Père. En lisant psaume chapitre 20. Et puis, essayer de retenir ce qu'il y a dans le chapitre 20. C'est-à-dire, tu ne lis pas à haute voix. Hein? Tu fais la lecture dans ton cœur. Et puis, tu fais la prière à haute voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous comprenez, non? Bon, essaie de faire deux choses simultanément. Je me suis rendu compte d'une chose. Le temps va pas me permettre. Vous pourrez faire le test chez vous. Faites ça avec votre épouse. Je me suis rendu compte d'une chose, ce n'est pas général, mais la majorité des femmes arrivent à faire les deux choses à la fois. Les hommes ne peuvent pas le faire. Soit ils prient, soit ils lisent. La femme, elle peut prier et puis elle lit. Mais comment lire? En fait, tu lis et puis après la prière, tu résumes ta lecture. Là, tu sais que tu as vraiment lu. Et j'ai fait ça les tests, donc l'homme est là, il dit... Il commence, notre Père, il coupe un peu notre Père pour pouvoir lire une phrase. Elle dit, il est obligé de faire, si tu pries un peu, tu regardes. Quand tu veux te concentrer sur la lecture, tu perds les pédales dans la prière. Si tu veux te concentrer sur la prière, tu vois que tu n'es plus concentré à la lecture.
La femme, alléluia, a la capacité de faire beaucoup de choses à la fois. Une femme, comme on dit, elle voit sa vision frappe à 180 degrés. Oui. Une femme, lorsqu'elle arrive dans un endroit, lorsqu'elle regarde une personne en train de parler, elle regarde une information, elle suit la télé, par exemple. Pendant qu'elle regarde les émissions, elle remarque les habits de tous les acteurs. Si le modèle est beau ou il n'est pas beau, en même temps, elle suit, sans se déconcentrer, l'émission, le film télé. Mais pendant qu'elle regarde là, sans qu'elle parle à quelqu'un, elle regarde, elle dit, le modèle est puissant, hein, dans son cœur. Elle dit, c'est qu'elle, son modèle est bien, hein. Elle regarde le film. En même temps, elle peut te réciter le film. Et elle admire et remarque les vêtements, elle donne des avis. Pourquoi la fille est mal habillée comme ça? Tout ça, elle peut le dire dans son cœur. Sans se déconnecter du film. Un homme, quand il regarde le film, les habits des gens, ça ne l'intéresse pas. Soit, il considère les vêtements, c'est-à-dire il va regarder comment les gens sont habillés, soit il regarde son film. C'est une grâce que Dieu a donnée à la femme. Ce qui fait que, comme elle voit beaucoup de choses à la fois, elle a beaucoup de sujets, Dieu a donné à la femme la capacité de faire beaucoup de choses simultanément. Par contre, Dieu a donné à l'homme une capacité, la force, comme je vous ai dit que l'homme c'est un chasseur, la capacité de concentration et de focalisation sur un seul sujet. Ce qui fait que, dans une maison, une femme est capable de faire beaucoup de choses. Tout ce qu'un homme fait, une femme peut le faire. Mais, l'homme n'est pas, comme je dis, éparpillé. Bon, c'est peut-être pas le bon mot. Il se focalise. Donc, sa capacité de concentration fait que lorsqu'il fait quelque chose, même qui est dans le domaine des femmes, il est capable de faire mieux que la femme. Ainsi, oui. Normalement, mais c'est vrai, les femmes, on vous loue, acceptez ça. Quand un homme décide de faire de la couture, il coud mieux qu'une femme. Quand un homme décide de se concentrer dans la coiffure, il est souvent meilleur coiffeur que les femmes. Quand un homme... Alléluia. Mais la femme, elle est une bonne coiffeuse, elle est une bonne mère, elle est bien dans tous les domaines. Elle a un équilibre en toutes choses. L'homme ne sait pas faire beaucoup de choses à la fois, mais il prend une seule chose et s'il se concentre là-dessus, il va faire mieux. Donc l'homme ne sait pas se focaliser sur plusieurs choses à la fois. Il fixe un but et il se focalise. Pourquoi il dit c'est un chasseur? Amen. Ce qui fait que si son travail lui prend la tête, qu'il commence à mettre toute son énergie sur son boulot, simultanément, il néglige un peu sa maison. La femme peut tout autant bien s'occuper de son travail et bien s'occuper de ses enfants. L'homme, s'il se focalise trop sur ses objectifs professionnels, la famille prend un coup parce qu'il n'a pas la capacité. Il est obligé, pour être excellent, de travailler par intermittence. L'heure du travail, il s'y concentre. L'heure de la maison, c'est la maison. Voilà, s'il veut être un peu équilibré, mais il ne sait pas faire beaucoup de choses à la fois. Voilà, donc, il peut agencer, il peut faire succéder les événements. Je bosse quand j'arrive à la maison. Mais dès l'instant où son esprit est captivé par un événement, même lorsqu'il arrive à la maison, il est absent. Si par exemple, il a eu un problème au boulot, il a une situation à régler, quand il vient comme ça, il rentre dans le salon, il s'assoit, il n'a pas trop envie de parler. Parce que son esprit est en train de travailler pour résoudre un problème. En ce moment-là, si la femme vient entamer des causeries, elle l'embête. Ou bien, si son film, s'il aime son film. En ce moment, il y a la Coupe d'Europe. Quand il regarde son match, madame, il faut comprendre, il regarde son match. C'est-à-dire, là. Bon, la femme, elle peut regarder le match et puis causer d'autres choses. L'homme, soit il regarde le match, soit il cause. Hein, c'est pas vrai. Alléluia. Donc, ce ne sont pas des défauts. Mais comprendre le conjoint vous aide à savoir l'apprécier, l'aimer, l'admirer. Amen. En disant non, il ne s'occupe même pas de la maison. Il ne s'occupe même pas de la maison. Quand ton mari, bon, je viens de parenthèse, je devance une partie de l'enseignement. Quand ton mari est focalisé, tu vois, tu as l'impression qu'il n'est plus concentré sur la maison, c'est qu'il y a quelque chose qui préoccupe son esprit. Amen. La solution n'est pas de te plaindre et de lui faire des palabres, et de la ramener tout doucement à revenir vers les choses que tu estimes être essentielles ou à prier le Seigneur pour que Dieu l'aide à résoudre le problème qui le préoccupe en ce moment. Comment est-ce que la femme donc peut amener le vin nouveau dans son couple? La première des choses qu'on a dit, on dit, il ne faut pas accepter la situation, une situation désastreuse. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas dire que mon conjoint est ceci, mon conjoint est cela. Dieu peut changer tout le monde. Il était impossible à David de terrasser Goliath, mais David a cru en l'Éternel. Dieu n'est pas limité. Il n'existe pas un homme sur la terre qui soit trop dur pour Dieu. Il n'existe pas une femme sur la terre qui soit trop difficile pour l'Éternel. Dieu peut tout. Tout ce dont il a besoin de quelqu'un qui va croire en lui. Marie s'est levée, elle est venue voir Jésus, elle a cru en lui, alléluia, elle n'a pas accepté la situation. Elle dit non, même si eux ils s'en foutent de ce que le vin soit fini, moi Marie je dis non, le vin ne doit pas finir, Jésus-Christ, ils n'ont plus de vin. Amen. Il faut quelqu'un qui croit. Et Marie a manifesté sa foi parce que malgré la réponse de Jésus, elle a dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Elle s'attendait à un miracle, elle savait que Jésus-Christ est venu aussi pour la restauration de la famille. Car c'est la première institution que Dieu a déposée sur la terre. Amen. Et pour manifester son règne, Dieu a besoin que les familles soient solides. Et les familles en Christ doivent être solides. Ta famille doit être solide pour que le règne de Dieu se manifeste. Ta famille doit être solide pour que tes enfants soient bien élevés, soient bien éduqués. Ta famille doit être solide pour que tu puisses envoyer dans ce monde des enfants merveilleux, bénis. Ta famille doit être solide parce que même l'exaucement de ta vision, l'exaucement de tes sujets est aussi fonction de ton conjoint. Alléluia. La Bible déclare ceci, si deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles demanderont à Dieu, cela leur sera accordé. Et retenez une chose, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Mais l'homme que Dieu a créé à son image a été séparé en deux. C'est pas ça? Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il a fait un seul corps, c'était Adam. Et ce Adam-là, Dieu l'a séparé en deux. Il a pris sa côte, il a créé Ève, il a fabriqué Ève. Ça veut dire quoi? Que l'homme qui est créé à la ressemblance de Dieu, n'existe plus aujourd'hui. Du moment que, quand on l'a créé à la ressemblance de Dieu, il y a une partie qu'on a ôtée pour aller faire la femme. Donc l'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est celui qui retrouve sa côte et qui devient une seule chair avec elle. Quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. On dit telle personne me ressemble et puis on coupe la personne en deux. Elle ne me ressemble plus. Elle a une partie de mon visage et l'autre partie se trouve avec l'autre. Pour que mon image revienne, je dois oublier de les mettre ensemble. Donc, l'union véritable de l'homme et de la femme amène le couple à entrer dans une dimension extraordinaire et puissante. C'est la raison pour laquelle le diable lutte contre les couples. C'est la raison pour laquelle Satan s'oppose terriblement à ton mariage. Parce qu'il sait très bien que le succès du mariage, c'est le succès de la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Satan a peur des couples. Il s'acharne pour que les enfants ne soient pas bien éduqués. Parce que le couple, c'est la cellule même de la terre, c'est la cellule du règne, de la manifestation du règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors donc, dans le mariage, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. Quand Dieu a créé Adam, Adam, il était un seul esprit, non? Il avait un seul esprit. Est-ce qu'il avait deux esprits? Il avait combien d'âmes? Une seule âme. Combien de corps? Un seul corps. Dieu, quand Dieu a séparé Ève, il n'a pas encore soufflé dans Ève. C'est le même esprit, la même âme qui a été séparée en deux. Mais, quand l'homme retourne vers la femme, voici la phrase qu'il prononce, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Donc, quand on se marie, on n'est pas d'abord une seule âme, ni un seul esprit. La seule chose qu'on connecte, c'est d'abord la chair. Pour que l'homme et la femme deviennent comme Dieu, il faut que l'homme ou la femme travaille à devenir une seule âme avec son conjoint et un seul esprit avec son conjoint. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque dans votre couple, vous devenez un corps, on devient une seule chair par les rapports intimes. La Bible dit, si un homme va avec une prostituée, il devient une seule chair avec elle. C'est pas ça? La première des choses qu'un homme a avec sa femme, ils ont des rapports intimes. Mais devenir une seule âme ne se fait pas immédiatement après l'officialisation du mariage. Vous me comprenez? C'est un travail qui se fait dans le couple. Vous, il va y avoir des clashs parce que chacun a son éducation. Chacun a sa politique. Parce que dans l'âme se trouvent vos coutumes, dans votre âme. Dans votre âme, ce sont vos habitudes, votre éducation, votre manière de penser. Toi, tu viens avec ton âme. lui aussi, il arrive avec son âme. Vous devez vous arriver. C'est facile de devenir une seule chair. Ça, le premier jour de vos rapports, une seule chair est née. Maintenant, devenir une âme là, c'est une autre aventure. On m'a dit, moi dans mon village, quand j'arrive, tu dois enlever mes chaussures, puis enlever mes chaussettes, et puis laver mes pieds. L'enfant dit, mais pourquoi moi j'ai fait ça? Ça c'est de l'esclavage. Ce sont des situations de conflit. Ça c'est une seule âme. Et il y a un seul esprit. Un seul esprit, l'esprit, dans l'esprit vous avez la vision, ou vos visions s'imbriquent. Amen. Parce que de toute façon, quand on devient une seule chair, c'est pas que vos peaux viennent se coller. C'est une vision de l'esprit, c'est pas ça? Amen. Donc quand on dit vous avez devenu une seule âme, c'est-à-dire tu rentres dans une dimension où tu es arrêté comme ça. Tu es une femme, hein, tu es à la maison. Ton mari, il pense, il dit aujourd'hui, je vais manger à loco poisson. La femme, elle est chez elle, sans téléphone, elle sent. Vous, alléluia, tu sens. Mais en ce moment-là, non, en ce moment, quand vous rentrez avec votre conjoint dans une telle dimension, rien ne vous résiste, rien. La Bible dit, c'est ce que le Seigneur décrit par deux personnes se sont accordées. Il dit, si deux hommes s'accordent, c'est un des rares passages où le Seigneur ne parle même pas de la foi. Il n'a pas dit si deux personnes s'accordent, qu'elles demandent chose à Dieu, qu'elles ne doutent pas. Il n'a même pas dit, il ne faut pas douter. Il dit, si deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles vont demander leur sera accordé. Quand les hommes du temps de Babel, la tour de Babel, lorsqu'ils étaient en accord, vous souvenez, comment Dieu a défini leur accord comment? Il dit, la Bible dit quoi? Ils étaient un même peuple. Ils avaient une même langue et un même mot. Un même langage. Donc ici, trois choses. Ils étaient un peuple. Ça, c'est comme si on devenait une seule chair. Ils avaient une même langue. Ils avaient un même mot. Ça veut dire qu'ils se comprenaient corps, âme et esprit. Et Dieu même dit, dans le livre de Genèse chapitre 11, il dit ces gens-là, parce qu'ils sont unis de cette façon, rien ne peut les empêcher d'obtenir ce qu'ils désirent. Il y a, frère, l'unité est une bombe terrible. Satan doit travailler pour ne pas que tu arrives à t'unir corps, âme et esprit avec ton conjoint. Parce qu'il a peur. Si vous craignez l'Éternel, toi et puis ton mari, vous êtes en accord, vous mettez à genoux comme ça, vous priez. Seigneur, sauve telle personne. Dieu le fait. Ça se produit en même temps. Tu es là, tu t'accordes avec ton épouse. Vous êtes en accord. Chérie, voilà tel marché, je dois l'avoir. Dieu glorifie ce nom. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord souvent. Pendant que le monsieur dit, chérie, je veux avoir tel marché. Dans son cœur, elle pense, ça là, s'il gagne l'argent, il ne va même pas me donner. Il va prendre ça pour lui seul. Lui seul, il va consommer. Il ne pensera même pas à moi. Mais elle va s'asseoir, les deux vont prier. Mais ils sont pas d'accord. Ils prient ensemble dans la même chambre, mais ils ne sont pas d'accord. Parce que la femme, elle a peur déjà de la gestion du succès. Elle dit, le monsieur là, s'il a eu ce travail là, déjà même qu'il ne travaille pas beaucoup, il n'est jamais à la maison. Ça là, s'il travaille, il va même plus être à la maison. Donc, elle n'est pas d'accord. Et le gars, il va sur le terrain, il a des problèmes. Frère, je n'ai pas dit de venir te fâcher contre ta femme. C'est que sûrement, dans la façon dont tu gères ton épouse, tu n'as pas développé en elle cette confiance suffisante pour que tes projets à toi soient aussi un rêve pour elle. Tu as tellement travaillé à tuer sa volonté en imposant tes désirs que tu ne sais. En fait, c'est pourquoi il ne faut pas être dictateur. Parce que quand tu es dictateur, c'est pourquoi il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance est un acte physique. La soumission est quelque chose qui vient du cœur. Une femme peut obéir mais ne peut être soumise. Quand elle obéit, mais elle n'est pas soumise, ça veut dire que profondément dans son âme, elle n'apprécie pas la manière dont tu la traites, tes projets auront des problèmes. Tu vas travailler difficilement. C'est pourquoi l'homme doit savoir traiter sa femme. Et c'est pareil aussi pour la femme. Si tu n'es pas en accord avec ton conjoint, que pendant que tu es en train de passer, lui-même dans son cœur, il dit, si la femme a l'argent, je suis mort dans ce pays-là. Ça là, déjà même son peu d'argent, elle cache, et puis, tu sens qu'elle va vouloir, dans son cœur, il pense que si elle a l'argent, elle va vouloir porter la culotte, elle va vouloir commander la maison. Et le type dans son cœur, il ne souhaite pas qu'elle réussisse. Parce que pour lui, sa femme et lui sont des concurrents. Qui s'occupe mieux de la maison? Il y a une concurrence. Et vous voyez, mais ce sont des choses qui ne se disent pas de manière, qui ne s'avouent pas, qui se pensent à l'intérieur. Donc, ils ne sont pas un seul esprit. Ils ne sont pas une seule âme. Ce qui fait que les projets ne réussissent pas. Les projets ne réussissent pas parce que les couples ne sont pas profondément unis. Mais les couples ne sont pas unis pour différentes raisons. Parce que l'homme ne sait pas considérer sa femme. Parce que la femme ne sait pas considérer son homme. Quand tu sais que quelqu'un t'aime réellement et que quand il vit, il pense à toi, il souhaite ton bien. Mais le jour où il pense à un projet, tu es accroché à ce projet-là, corps, âme et esprit. Mais si le mari, tu maltraites ta femme, tu la frappes, tu dis, bon, Audi, je fais comme ça. Elle n'a même pas son avis à dire sur tes voyages, sur tes déplacements. Elle ne peut pas parler. Mais elle, on dit, quand elle parle, tu dis, sois soumise. Donc elle se tait. Ça ne devient plus de la soumission, ça devient de l'obéissance. Et l'obéissance ne porte pas de fruits. Tu auras juste quelqu'un à la maison qui est assise, qui fait ce que tu veux, mais comme tu n'arrives pas à déclencher dans sa vie la soumission, ta mission ne va pas réussir. Parce qu'il faut qu'on vienne soutenir ta mission. Il faut qu'on soit sous ta mission. Maintenant, alléluia, dans son cœur, elle ne porte pas ta mission. Dans sa bouche, elle parle de la bouche, mais son cœur est loin. Pareil aussi pour les femmes. Tu ne fais pas ton mari, tu t'élèves. J'ai tel projet. Oh, tu sais, chérie, j'ai signé une affaire puissante aujourd'hui. Et toi, tu es en train de prospérer devant lui. Il s'est dit, tu dis, quand j'aurai l'argent, on va faire ceci. Je ne l'occupe pas, hein. Je vais financer ton projet. Toi-même, tu parles comme ça. Et ton mari est là. Je vais avoir l'argent. Et puis, dans son cœur, il est là. Mais si elle finance, qui va porter la culotte dans la maison? Son cœur n'est plus en accord. Professionnellement, tu n'as pas l'évolution que tu aurais dû avoir. Ça veut dire, il a un peu peur. Si tu es mieux payé, il souhaite et puis il ne souhaite pas. Dans son intelligence, il veut bien. Mais dans son âme, il a peur. Parce qu'il ne sait pas trop comment tu vas réagir. Quand tu lui parles de tes voyages, il est d'accord. Mais il n'est pas d'accord parce qu'il craint que quand tu voyages, tes collègues te draguent. Donc si tes collègues te draguent, lui il est en danger. Donc en même temps, dans la société, il a peur que tu connaisses une promotion parce que tu vas trop passer du temps à l'extérieur. Donc comme il a peur, mais dans sa bouche, il va t'encourager, mais dans son cœur, donc il n'y a pas d'accord. Vous priez, mais tu ne peux pas être évolué parce que ton évolution entraîne dans son cœur une peur. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Alors, mais sa crainte peut être légitime. Sa crainte peut être légitime en fonction des attitudes qu'il t'a vu manifester au préalable. Amen. C'est pourquoi l'un et l'autre doivent vraiment travailler pour apprendre à comprendre le conjoint. Qu'est-ce qu'il reproche? Quelles sont ses craintes? Et puis, par la grâce de Dieu, arriver. Et c'est ça le but de notre enseignement sur la famille. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, plus je sens l'accord avec mon épouse, plus je vois la gloire de Dieu. Et chaque fois, il faut qu'on planifie chaque petite chose. Parce qu'on va quelque part. Il y a une vision dans le couple. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour restaurer les noces de Canaan, pour amener, il a pris des vases qui étaient destinés à la purification. Juste pour faire comprendre au couple que le couple, il est destiné à la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas cette vision, vous vous trompez largement de la vision du couple. Si vous pensez qu'un couple vient simplement pour avoir quelqu'un dans votre maison, vous vous gourez, vous vous trompez. Le couple, quand Dieu a fondé la famille, il avait une plus grande vision, qui était loin de la simple satisfaction charnelle. C'est pourquoi il faut bâtir sur la vision de Dieu, pour pouvoir avoir un couple solide. Si vous bâtissez sur une autre vision, sur un autre projet, sur un autre plan, le foyer ne tiendra pas. Il ne va pas tenir parce qu'il n'est pas de Dieu. Alléluia. Même si vous avez fait 10 000 prières avant de commencer votre foyer. Amen. Alléluia. Je pense que c'était bien que je dise toutes ces choses-là. Pour qu'on comprenne un peu l'enjeu de la restauration de la gloire dans la famille. Amen. Et c'est pour toutes ces causes-là. Parce que nous ne bâtissons pas nos foyers sur des raisonnements solides, des raisonnements divins. Nous ne bâtissons pas selon les 6 vases, c'est-à-dire selon la vision du 6e jour, quand Dieu a créé l'homme et la femme. Quand nous engageons, n'est-ce pas, des familles, des foyers, sans la vision du 6e vase, sans la vision du 6e jour, notre vin finit toujours à manquer. Amen. Parce qu'à un moment donné, l'homme est déçu, la femme est déçue, tout le monde est découragé. Mais pourquoi on est découragé? Parce qu'on n'est pas en train d'accomplir le plan de Dieu. Amen. Alors donc la femme J'ai dit, il faut identifier les problèmes. Un, il faut les écrire. Deux, il faut appliquer ce qu'on appelle la soumission. Il faut te soumettre. Il faut travailler à te soumettre à la soumission. Alléluia. Et nous sommes en train d'expliquer les différentes étapes de la soumission. Effectivement, la Bible dit que faut pas attendre que ton mari soit gentil avec toi pour te soumettre. Si tu veux changer ton mari, il faut d'abord te soumettre. C'est ce qu'il explique dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Autrement dit, un homme qui ne marche pas selon ce que Dieu aura attendu de lui peut être transformé par la conduite de la soumission. Amen. Ce passage ne fait pas référence seulement à des hommes inconvertis. Il dit, si un homme n'obéit pas à la parole, donc, lorsqu'un homme ne marche pas selon le plan de Dieu, même s'il est chrétien, il n'obéit pas à la parole. Mais comment est-ce qu'il peut changer? Dieu dit, ce n'est pas par les querelles, ce n'est pas par les réprimandes. Sachez-le, un homme fuit les réprimandes. Quand tu lui fais des reproches, quand tu élèves la voix sur un homme, il ne t'écoute plus. Ça n'a pas de portée. C'est pourquoi, et c'est là que le diable utilise donc la femme. La femme, à cause, vous savez, comme Dieu l'a rendue hyper sensible à tout ce qui se passe autour d'elle, ça crée dans son être apparemment un type de fragilité. Est-ce que vous comprenez? Ça la rend à peu près fragile. Ce qui fait qu'une femme, lorsqu'elle souffre dans son passé, elle va mettre sur son cœur différentes formes de carapace pour se protéger, de méfiance et d'attitude, qui l'empêche profondément de se soumettre. Parce qu'elle a toujours peur qu'étant soumise, le monsieur puisse abuser d'elle, de sa gentillesse et de sa bonté. Si tu es trop gentil, il va monter sur toi. Parce que tu as vu ta camarade, elle était douce et gentille. Son mari l'a maltraitée, il l'a chassée. Dans sa douceur là, il est parti prendre quatre autres femmes à l'extérieur. Donc toi, dans ton esprit, et on t'a formé pour ça, tes parents t'ont éduqué, on a dit, ma fille, les hommes ne sont pas bien. Cherche-toi toi-même financièrement. Et puis pour que tu aies ton mot à dire, s'il parle, toi aussi tu peux vivre. Mais ça là, les couples qui ont eu ces problèmes, ce sont les couples sans Dieu. Et ça ne règle pas le problème. La seule chose que ça a formé des personnes pour qui il est difficile de se marier. On comprendra plus tard combien de fois ce genre de conseils et d'exhortations créent à l'avance des problèmes à votre couple. Il faut se soumettre. Et la soumission est quelque chose qui vient du cœur. Amen. La femme doit donc travailler sur l'attitude de la soumission, qui est différent, qui contient bien sûr la notion de l'obéissance, mais qui est supérieure à la notion de l'obéissance. Amen. Dans la soumission, il y a la notion d'obéissance. Mais la soumission va beaucoup plus loin, et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Le premier aspect de la soumission, c'est que la soumission traduit d'abord un amour. Mais quel type d'amour? L'amour agapé. Amen. On a parlé donc des trois dimensions de la soumission. L'amour agapé. On dit l'amour agapé, c'est l'amour de l'esprit. Alléluia. L'amour éros, parce qu'il y a trois types d'amour en nous. Il y a l'amour de la chair, il y a l'amour de l'âme, et il y a l'amour de l'esprit. La Bible dit que la femme, Tite chapitre 2 verset 4, il dit aux femmes âgées qu'elles puissent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Si l'amour était simplement un sentiment, on n'aurait pas dit d'éduquer les gens, de former les gens à apprendre à aimer. Parce que l'amour sentimental, qui est un amour de l'âme, est un amour qui est une réaction vis-à-vis de l'attitude que quelqu'un pose. Alléluia. Et ce sont ces types d'amour-là qui finissent dans le foyer et qui font que le premier vin vient toujours à manquer. Amen. Lisons 1 Corinthiens, le chapitre 13. Voici pour Dieu la véritable définition de l'amour que la femme doit porter envers son mari et que le mari doit porter aussi envers sa femme. La Bible dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, je lis à partir du verset 1, si je n'ai pas l'amour, dans le texte grec, ce qui est écrit, c'est agapé. Donc, je vais dire agapé. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas agapé, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, lassant de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas agapé, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas agapé, cela ne sert à rien. Agapé est patient. Agapé est plein de bonté.
Agapé n'est pas envieux. Agapé ne se vante pas. Agapé ne s'enfle pas d'orgueil. Agapé ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt.
Ça, c'est une des caractéristiques essentielles, entre une des différences essentielles entre agapé et puis l'amour qu'on appelle le philéo, qui est celui-là que les hommes manifestent le plus souvent. C'est avec ce sentiment philéo que les gens se marient. C'est pourquoi leur vin finit toujours.
Agapé ne s'irrite pas, ça veut dire qu'il ne se met pas en colère. Agapé ne soupçonne pas le mal. Soupçonner le mal, c'est regarder quelqu'un et puis lui donner... Par exemple, tu le regardes, ton mari a salué une fille. Pourquoi? Tu l'as salué comme ça. Ton sourire là, ça voulait dire quoi? Ma soeur, si tu manifestes ce type de jalousie vis-à-vis de ton fiancé, ce que tu éprouves, ce n'est pas agapé. Ton foyer va avoir des problèmes. La jalousie est un symptôme de philéo et de héros. Oui, la jalousie, tu es jaloux. Pas la jalousie dont Dieu le parle, mais la jalousie. Pourquoi tu regardes la fille comme ça? Pourquoi elle est venue te saluer? Elle veut dire quoi par là? Pourquoi même tu souris comme ça? Elle est fille. Toi-même, tu aimes rire trop. Elle. Cette attitude-là prépare un foyer à problème. L'amour agapé ne soupçonne pas le mal. C'est dans ce sens-là que le Seigneur dit dans Tite 2:4 que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes filles à aimer, c'est-à-dire à développer agapé. Le mari doit aussi aimer sa femme agapé. Dans agapé, il y a une confiance. Agapé ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Agapé excuse tout. Agapé croit tout. Agapé, frère, quand tu manifestes l'amour agapé vis-à-vis de ton conjoint, c'est un peu comme si tu es naïf. Ce qu'il te dit, tu crois. Où tu viens à 23h? J'étais au bureau. Je crois. Alléluia. Agapé espère tout. Et ça, c'est très important. Dans l'amour agapé, il y a l'espérance. Je crois. Même si, vous savez, c'est cet amour agapé qui fait que le Seigneur croit toujours en nous. Quand on dit croire tout là, ça ne veut pas dire en fait être naïf, c'est une manière de parler. Ça veut dire, tu crois au changement des gens. Tu crois que quelqu'un peut devenir meilleur. Agapé ne se décourage pas. Agapé a toujours de l'espérance. Et c'est cette espérance-là qui engendre sa foi. C'est pourquoi si vous ne manifestez pas l'amour agapé vis-à-vis de vos conjoints, lorsqu'il va commencer peut-être à vous décevoir, vous allez vouloir vous rétracter. Parce qu'en réalité, le sentiment que vous aviez, ce n'était pas l'amour agapé, c'était plutôt l'amour philéo. Philéo ne supporte pas tout. Philéo, il ne pardonne pas tout. Philéo, il ne croit pas tout. Philéo est attaché à toi parce qu'il Philéo a un rêve. Il pense que tu es quelqu'un qui va avec qui il sera heureux. Donc, dès l'instant où tu manifestes autre chose, contraire à son espérance, Philéo est déçu de toi. Philéo n'a plus confiance. Philéo dit, tu m'as trahi. Tu as trahi notre alliance. Tu as dit que tu allais prendre soin de moi. Tu ne t'es pas occupé de moi. Tu t'es engagé devant le maire et devant l'église. Agapé, lorsqu'il découvre les défauts de son conjoint, il a de la compassion et il désire l'aider. C'est cet amour-là que Jésus a pour son Église. De sorte qu'il nous arrive de pécher, mais quand nous revenons vers lui, il nous pardonne. Voilà des siècles que nous sommes là et Christ nous pardonne constamment. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, Marie, aime ta femme comme Jésus. Et le mot, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, quand il dit, aime ta femme, lisez, quand dans le grec c'est écrit Marie, faut agapao ta femme. Il n'a pas dit faut philéo. Parce que Dieu connaît les limites du sentiment philéo. Or, les hommes se marient, c'est philéo qui vous donne l'impression du coup de foudre. Où tu brûles, tu sens un attachement. C'est philéo qui fait souffrir. Parce que philéo s'attache à quelqu'un. Donc, lorsque tu brises la corde, philéo souffre. Quand vous avez du philéo, quand un homme vous trahit, ou bien une femme te trahit, tu peux maigrir, c'est-à-dire tu es malade. Alors, si l'attitude de ton conjoint te fait souffrir terriblement, au point où tu passes des nuits à pleurer,
a dit, vraiment, je ne sais pas qu'il était comme ça. Si je pouvais recommencer. Si tu as un tel raisonnement, sache que le sentiment que tu éprouves est un sentiment qui gêne Dieu. Tu crois que c'est de l'amour. Dieu te dit que ce n'est pas de l'amour. Le sentiment que tu manifestes est un sentiment égoïste. Tu es en train de découvrir simplement les limites de ton homme. Si tu avais agapé, tu aurais espéré en lui. Mais comme tu as philéo, tu n'as plus d'espoir. Tu allais croire en lui. Alors, si tu veux le vin nouveau, laisse partir philéo. Il faut que ton vin finisse. Et que tu recommences à ton foyer avec le véritable amour, l'amour agapao, agapé. Alléluia. Philéo doit finir. Philéo donne de mauvaises espérances. Philéo ne croit pas en l'homme. Philéo croit dans un faux rêve. Philéo croit qu'il marie la personne parfaite. Agapé croit qu'il marie la personne qui sera parfaite demain. C'est différent. Alléluia. C'est en cela que Agapé croit tout. Agapé a la foi. Agapé ne marie pas une personne pour ce qu'elle est aujourd'hui forcément. Elle regarde dans cette personne et elle dit, celui-là, il a une destinée. Je crois en lui. Et Agapé vit par rapport à la foi. Alléluia. C'est ce qui fait que son sentiment est constamment renouvelé. Or, Philéo vit par rapport à ce que tu lui apportes dans l'instant. Si tu ne lui apportes plus, tu n'es plus attentionné, tu n'es plus doux, tu n'es plus gentil. Comme l'homme, il se défocalise très vite. Quand il s'agissait de se focaliser pour t'avoir comme sa femme, il s'est concentré sur toi. Mais je dis, il ne s'est pas fait beaucoup de choses à la fois. Quand un autre problème a surgi dans sa vie, chérie, je t'aime, hein, mais il s'est concentré. Et tu as l'impression qu'il a pris une autre femme, son boulot. Et tu commences maintenant, quand il vient, il rentre des petits missiles. Dès que tu viens, tu déposes le repas sur la table avec un regard pour dire, comment ça, à 7 heures, tu rentres. Avec un regard de missile. Hein? Des scuds, patriotes. Sol. Mais tu déposes le repas. Hein, toi, tu as fini, tu les laisses sur la table. Tu vas t'asseoir devant ta télé. Mais le sentiment même que tu manifestes là est la base des futurs problèmes dans ton foyer. Parce que Philéo va toujours être déçu. Mais Agapé est différent. Quelqu'un comprend? Alléluia. Agapé supporte tout. La Bible dit, Agapé ne meurt jamais. Verset 8. Agapé ne périt jamais. Les prophéties vont cesser. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Quand nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, au départ de ce passage, il dit, tu peux avoir toute forme de don spirituel. Et c'est ce qui nous trompe souvent. On réussit tellement de choses dans notre vie qu'on croit qu'on est parfait. Il dit, si tu parles la langue comme les anges, si tu pries et que la montagne même se déplace, quels que soient les prodiges que tu as pu réaliser dans ta vie, si tu n'as pas agapé, tout ce que tu as pu faire n'est rien. Pourquoi Dieu le dit? Tu as pu réaliser des choses sans agapé. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, lisez bien le passage. Il dit, quand tu auras même la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si tu n'as pas agapé, ce que tu fais n'est rien. Parce que Dieu sait que sans agapé, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Or, agapé, là, ce n'est pas pour manifester d'abord envers toute l'église. C'est pour manifester d'abord envers ta femme, femme envers ton mari. Si tu n'as pas agapé, tes projets à la longue ne porteront pas. Parce que c'est agapé qui enclenche tout le reste, tous les autres principes que je citerai après. C'est pourquoi je suis revenu sur agapé. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi l'amour agapé. Donne-moi l'amour agapé. Alléluia. C'est ce sentiment-là, c'est cet amour-là que Adam a eu lorsqu'il a vu Ève. Et puis il dit, voilà celle qui est os de mes os. Et je vous ai expliqué la dernière fois, je vous ai montré ce tableau-là en disant que c'est agapé qui crée facilement le philéo. Parce qu'il faut qu'il y ait philéo quand même dans votre couple. Et il faut qu'il y ait aussi eros. Ça veut dire que ton mari, que ta femme, que ton conjoint t'attire physiquement. Eros, ce sont les sentiments charnels. Ça veut dire que c'est tout ce qui est attirance physique. Quand tu dis j'aime le poulet, c'est un type d'amour eros. Ce n'est pas pour le bien du poulet. C'est parce que tu vas le manger, tu veux lui faire du mal. Donc, quand un homme aime sa femme de manière érotique seulement, tout son projet, c'est juste d'avoir des rapports sexuels avec elle. Il n'a pas. Donc, ça, c'est. Vous voyez, Donc, un homme, c'est pourquoi les femmes, il ne faut pas provoquer les hommes pour qu'ils vous marient simplement sur le plan éros. C'est une erreur fatale. En disant, oui, je m'éclaircis, j'ai fait ceci. Et les hommes, ils aiment les filles comme ça. Donc, tu vas prendre ça. Les gens seront attirés vers toi juste pour ton attirance physique. Et ils peuvent te marier juste pour ton attirance physique. Tu as bâti un foyer désastreux. Parce que l'attirance qu'il a pour toi est un sentiment éros. Ce n'est pas pour ton bien, c'est pour son bien à lui. C'est un type d'amour qui est égoïste. L'amour éros est égoïste. Il ne pense qu'à son propre ventre. Il ne pense qu'à ses propres intérêts. C'est pourquoi il faut l'éviter. Amen. En fait, il ne faut pas commencer par lui. Alléluia. Il faut d'abord commencer. C'est pourquoi Adam dit os de mes os. Quand il parle d'os de mes os, il parle de l'être intérieur. Donc, le sentiment d'amour qui est manifesté, quand il dit os de mes os, c'est agapé. Quand il a vu Ève, il dit, cette femme-là, je la gapé, hein? Je la gape. Et puis, donc, il dit, voilà, os de mes os. Et puis, après, il dit, mais Eros aussi, elle me plaît. C'est très important. Chair de ma chair. En Eros, mais il commence d'abord, il dit, en agapé, je l'aime. En philéo, je l'aime. En Eros, je l'aime. Mais Eros au seul, problème. Filéo seul. Ça fait que tu vas chercher ton conjoint. Et généralement, les hommes, quand ils sont attirés vers les filles, bon, il y a le cas contraire. Les hommes sont attirés à cause de l'amour éros, très souvent. Mais un peu à cause de filéo aussi. Mais les femmes, très souvent, elles tombent amoureuses pour le filéo, pas pour l'éros. Donc, elles trouvent dans la personne avec qui elles marchent vraiment un ami, quelqu'un avec qui ils arrivent à s'exprimer, quelqu'un avec qui ils arrivent à s'ouvrir. C'est aussi quelqu'un qu'elle a l'impression qu'il prend soin d'elle. Sans qu'elle se rende compte, c'est aussi égoïste. En fait, ce n'est pas un égoïsme sexuel, mais c'est un égoïsme pour trouver quelqu'un qui va savoir la dorloter, savoir lui parler, quelque part aussi ce type de sentiment égoïste. Donc, tu t'es juste marié pour qu'il soit un ami. Or, l'homme étant un chasseur qui change rapidement de focalisation, dès qu'il se focalise sur autre chose, tu te sens trahi. Parce qu'il arrive, au lieu de causer avec toi avant de dormir, il est fatigué, il a travaillé, il vient, il dort. Quand il se réveille seulement, tout ce qu'il pense, c'est Eros seulement. Il veut t'érosser. Toi, tu veux le filoé. Lui, faire l'amitié avec toi, là, ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas dit que tu n'es pas son ami. Il a fourni de l'énergie en esprit. Maintenant, là, il doit t'érosser. Or, toi, tu es une femme sensible, tu es un être sensible. Toi, tu veux d'abord vous filoer, soyez des amis, et puis après, on va voir si on peut passer à Eros. Mais lui, il saute les étapes. Il ne considère pas que tu es sensible. Allons droit à Eros. Quelqu'un me comprend? Alléluia. On s'est compris, non? Alléluia. On a bientôt fini pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc les hommes, il faut comprendre ça. Mais j'ai vu aussi dans mon expérience qu'il y a des hommes aussi très sensibles. Il y a des hommes aussi qui sont très filéaux. Ça arrive qu'il y a des hommes qui sont très filéaux. Ça veut dire leur relation n'est pas, c'est pour dire quelqu'un, ils sont pas très éros. Ils sont filéaux, ça arrive. J'ai aussi vu, il paraît qu'il y a des femmes aussi qui sont très éros. Bon. Ça existe aussi. Mais, par pourcentage, les femmes sont plus filéo que les hommes et les hommes sont plus éros que les femmes. Mais il arrive qu'il y ait des hommes qui soient très filéo aussi. Et ça, vous voyez des gens très gentils, très trucs, voilà, attentionnés, doux, tout ça. Et c'est ce type-là, comme très souvent les Occidentaux, les Blancs, eux, ils développent dans leur relation, beaucoup le côté souvent filéo. Ils vont être attentionnés, t'amener à la plage, te donner des fleurs, ils aiment ça. Et puis ils sont éros. Donc, les filles africaines, les femmes de l'Afrique, quand tu leur parles, elles disent, moi, je veux marier un blanc. Je veux blanc. Je veux blanc. Alléluia. Elle dit, pasteur, moi, tout ce que je ne sais pas trop là, je veux marier un blanc. Un blanc. Ah, c'est les blancs, ils te comprennent. Les blancs, ils sont attentionnés. Les blancs, ils sont doux. Parce qu'en fait, si tu veux, la civilisation occidentale a beaucoup travaillé le côté filéo. Donc, ils ont développé le côté émotionnel, le côté sentimental, avec les histoires romantiques. Voilà. L'homme a un côté philéo, mais seulement ce n'est pas développé. Très souvent, les Africains, de par nos éducations, avec nos parents, un homme avec son père n'a pas une relation amicale. Il a une relation de père à fils, c'est-à-dire autoritaire. Donc, l'homme lui-même, n'ayant pas reçu beaucoup de philéo en Afrique, manifeste son amour comme il le sent, c'est-à-dire eros. Parce que tu ne peux pas donner aux gens ce que tu n'as pas reçu. Tandis que l'éducation occidentale favorise beaucoup le côté philéo. Les parents sont très souvent des amis à leur enfant. Comme ils sont amis, l'enfant, lorsqu'il veut se marier, ce qu'il a reçu, comme il a reçu du philéo, il peut en donner. La Bible dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Amen. En Afrique, on a très peu de nos pères qui ont pu dire à leurs enfants que je t'aime. Il n'y a pas de relation, papa est là, il dit, mon fils, tu sais que je t'aime. Un enfant a très peu entendu ça. Les hommes ont très peu entendu ça. Papa, c'est, va à l'école, tu dis quoi? T'es. Et puis, les conseils pratiques de la vie, c'est-à-dire, pour le papa, pour nos parents, c'est fonctionnel. Tu dois réussir, tu es un homme, voilà. Mais il n'y a pas de relation affectueuse. Donc, les hommes, très souvent en Afrique, n'ont pas ça. Et ça trompe les femmes. Les femmes, noires, elles se disent, bon, noir, il m'en faut un blanc. Mais en fait, c'est parce que tu cherches du filéo. Mais même si vous partez en Occident, vous allez voir que là-bas, on divorce peut-être 2 fois, 3 fois plus qu'ici. Donc, malgré leur filéo, ils divorcent. Parce que filéo comme Eros ne donne rien à la fin. Ça produit les mêmes résultats. Vous me suivez? Donc, blanc que tu cherches là, rien ne te dit que tu as les mêmes probabilités d'échouer ton foyer que de te marier avec un noir. Ça n'a rien à voir. Eux, ils développent philéo, les noirs développent eros, mais tous ces deux types de sentiments ne sont pas la base d'un foyer heureux. Ce qui solidifie un foyer, c'est agapé. Alléluia, quelqu'un m'a compris, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Frère, ce que je veux vous demander, mardi dernier, j'ai parlé là-dessus. J'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que je revienne sur l'amour agapé. C'est la base de tout. Maintenant, retenez ceci pour terminer. L'amour agapé n'est pas un sentiment. C'est un commandement. Amen. Avant compris, c'est un commandement. C'est-à-dire quoi? Imaginez simplement la façon dont... Qui aime Jésus? Ok. Si vous aimez Jésus vraiment, je parle du vrai amour de Jésus. Si vous regardez votre cœur, vous allez voir que l'amour pour Jésus... Le vrai amour pour Jésus est un amour qui est agapé. Mais il y a des gens qui aiment Jésus de manière philéo. Il y a des gens aussi qui aiment Jésus de manière eros. Oui. En fait, ce n'est pas par rapport à des rapports intimes. Mais c'est que leur intérêt vis-à-vis de Jésus, c'est pour leur ventre. C'est-à-dire quand ils s'approchent de Jésus, là. En fait, tout ce qui est satisfaction charnelle est eros. Vous comprenez, non? Même pour manger. Donc, quand ils prient, quand ils viennent à l'église, là, ils cherchent l'argent, ils cherchent la promotion. Donc, tout leur raisonnement est eros. Ils aiment Jésus pour que Jésus, parce qu'il faut que Jésus réponde à leurs besoins. Ces personnes-là rétrogradent très vite. Parce que quand ils commencent à rentrer par le désert, où Dieu veut les éprouver, ils sortent dans le monde pour dire, votre Jésus, là, si c'est l'histoire comme ça, nous, on va se régler dans le monde. Donc, ces gens-là, leur amour n'a pas perduré avec Jésus parce que c'était eros. Il y a des gens qui aiment Jésus qui disent de manière philéo. Donc, quand ils arrivent à Jésus, ils cherchent dans l'église un ami, une affection. Donc, s'il n'y a pas de communion fraternelle, on ne les a pas salués au culte. Dans votre église, il n'y a pas d'amour. Ils rétrogradent. Ça, c'est les filéos. Et il y a certains qui aiment Jésus de manière agapao. Ça fait une différence. Ces gens-là, ça dit que tu aimes Jésus, c'est vrai parce qu'il est mort pour toi à la croix, mais... Quelles que soient les épreuves, tu ne baisses pas les bras. Tu es attaché à lui. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que quelquefois, tu as l'impression que Jésus ne t'a pas satisfait. Mais tu espères toujours. Agapé espère tout. C'est ce que tu comprends. Tu crois en lui. Ça veut dire même si ce que tu vis aujourd'hui te paraît injuste, mais Agapé croit tout. Tu crois toujours. Agapé pardonne tout. Même si tu as l'impression que ce que Dieu a fait, ça ne t'a pas plu. Mais tu sais qu'il a toujours raison. Agapé pardonne tout. Donc, ce que tu ressens, qui est d'abord un commandement, c'est un commandement que tu t'es imposé vis-à-vis de ta relation. Tu dis que ce Jésus-là, j'ai décidé de l'aimer. C'est une décision. J'ai décidé de l'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce n'est pas un sentiment qui naît. C'est une décision. C'est la décision de la conversion. Et cette décision-là, c'est un commandement donc, qui fait que tu es persévérant dans ta foi, tu demeures. C'est le même type de sentiment que Dieu demande d'avoir. C'est pourquoi il dit, Marie, femme, pardon,
soumettez-vous à votre mari comme vous le faites pour le Seigneur. Parce qu'en fait, envers le Seigneur, très souvent, ce que vous manifestez, c'est agapé. Il dit, le même sentiment que tu as pour le Seigneur, il faut qu'il soit le même pour ton mari. Où tu espères, tu patientes, tu crois toujours que demain sera meilleur, que Jésus ne va jamais t'abandonner. Cette même espérance, donne-la à ton conjoint. Amen. Il ne faut pas lui donner du filéo. Manifeste la véritable soumission avec agapé. Marie, il faut agaper ta femme comme Christ a aimé l'Église. Si vous comprenez agapé et puis vous appliquez ce commandement-là, c'est-à-dire ne cherchez pas un sentiment. Prends la décision d'aimer ton mari. Il ne faut pas attendre que ça naisse. Ce n'est pas un sentiment. Décide. C'est pourquoi, mardi dernier, j'ai dit, commence d'abord, confesse ton amour pour ton mari. Ne regarde pas tes sentiments, mais regarde ton espérance. Et regarde ton mari pour dire, j'aime cet homme. Il est merveilleux. Il est très beau. C'est le meilleur des maris de toute la terre. Regarde ta femme. Et puis dis, elle est merveilleuse. Je l'aime. Même si hier, elle t'a mal parlé. Je l'aime. Même si elle t'a insulté, ton cœur est en train de brûler. C'est Philéo qui brûle. Laisse Philéo partir. Et continue à confesser pour développer agapé. Dis, je l'aime. Femme, fais comme ça avec ton mari. Mari, fais comme ça avec ta femme. Philéo va souffrir. Mais agapé doit toujours renouveler. Pendant que tu vas prononcer, tu vas voir les choses extraordinaires et tu vas t'apprêter à voir le vin nouveau. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu vas mettre une main sur ton cœur. Tiens-toi debout. Tu vas te tenir debout. Et je vais prier afin que Dieu vienne, je ne dirais pas renouveler, mais vienne amener le véritable amour de notre cœur. Ton cœur doit être rempli d'agapé déjà, avant même de rencontrer ton conjoint. Vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis des autres, c'est l'amour qu'il faut manifester. Quand la Bible dit, voici le premier commandement, il est écrit, tu vas agaper ton Seigneur et tu vas agaper ton prochain comme toi-même. Dans le grec, c'est ce qui est écrit. Une fois dans la Bible, Jésus posait la question à Pierre en Jean chapitre 21. Il a dit, Pierre, est-ce que tu m'agapas ? Dans le grec, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, Pierre, est-ce que tu m'agapas ? Pierre a répondu ceci. Il dit, Seigneur, je te filéo. Dans Jean chapitre 21, quand vous lisez le passage, vous ne comprenez pas. On voit Jésus qui dit, Pierre, est-ce que Pierre m'aimes-tu ? Et Pierre qui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Dans le grec, Pierre n'a pas répondu de la même façon. Jésus lui pose, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre répond, Seigneur, je te filéo. Jésus lui demande, Pierre, est-ce que tu m'agapas ? Pierre répond, Seigneur, je te filéo. Pierre disait, je te filéo, parce qu'il avait compris, parce qu'il venait de renier Jésus. Et il savait que s'il aimait Jésus agapéo, il n'allait jamais le renier. Mais le sentiment qu'il avait pour Jésus était un sentiment filéo. C'est pourquoi, face à la persécution, Pierre a abandonné. Parce que agapao n'abandonne pas. Que Dieu, comme il a fait pour Pierre, puisse consumer d'abord le filéo en nous et laisser manifester le véritable amour, qui est l'amour agapé, sur lequel va venir après le filéo et le eros, qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Mais s'ils ne sont pas basés sur l'amour agapé, ils vont créer des relations éphémères. Ils vont créer des relations temporaires qui vont s'éteindre dans le temps. Seigneur Dieu des cieux, je prie pour le cœur de tes serviteurs, de tes servantes. Je prie pour nos mentalités. Afin que tu viennes véritablement nous apprendre à aimer. Nous voulons apprendre à aimer. Nous voulons apprendre à agaper. Nous voulons que ce principe divin s'installe dans nos vies. Afin que nous puissions t'aimer de toute notre force. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer Seigneur Dieu notre conjoint. Père éternel Dieu des cieux, pardonne-nous quand nous avons bâti. D'avoir simplement bâti nos relations sur le filéo. Éternel, tu nous as montré aujourd'hui que le sentiment filéo, le sentiment éros disparaît toujours avec le temps. Quand il n'est pas fondé, quand il n'est pas basé sur agapao. Éternel Dieu des cieux, viens aider tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tous les faux sentiments qui étaient dans ton cœur jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, que du haut du ciel, par son bras puissant, le Seigneur vient de remplir ton cœur de agapé. sois inondé de l'amour de Dieu, de l'amour de ton Seigneur, de l'amour de ton prochain. Sois rempli de cet amour dans le nom de Jésus. Sois rempli de cet amour. Sois rempli de cet amour dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu ouvres nos yeux pour nous donner de bâtir des foyers solides, des foyers stables pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi l'élévation, c'est des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You can't find